On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire, en fait. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour à tous, bonjour Audrey. Aujourd'hui, nous allons parler de la précarité alimentaire. Pour l'occasion, notre émission À vous les Burgiens se délocalise à la Banque alimentaire de l'Ain à Bourg-en-Bresse.
Alors en période d'inflation comme c'est le cas en ce moment, les prix augmentent, la nourriture n'y échappe pas. Et se nourrir devient de plus en plus compliqué. Des associations se mobilisent depuis des années pour offrir des repas aux plus précaires. Aujourd'hui, quelles personnes frappent à leur porte ?
Pour y répondre et mieux comprendre la situation, nous irons à la rencontre des bénéficiaires de la Croix-Rouge en deuxième partie d'émission. Nous ferons aussi une visite des locaux de la Banque alimentaire. Mais avant ça, Audrey, vous allez échanger avec le président de la Banque alimentaire de l'Ain et la présidente de l'unité locale du bassin burgien de la Croix-Rouge.
L'invité de Radio B.
Didier Dussard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Banque alimentaire de l'Ain. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Nicole Gabriard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de l'unité locale du bassin burgien de la Croix-Rouge. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Avant de commencer, je voudrais refaire un petit peu d'histoire sur l'aide alimentaire et les métamorphoses. Où on est passé de l'aide d'urgence des années 30 et ce qu'on appelait les repas du pauvre à l'époque, sous l'égide des pouvoirs publics, en passant par les années 80, avec la création en 84 des premières banques alimentaires, où le secteur associatif, afin de combler les manques d'un État-providence en crise et répondre à l'urgence, et pour finir aujourd'hui, à un modèle de l'aide alimentaire qui a évolué depuis 2010, et plus récemment avec la loi Egalim qui vous permet aujourd'hui de garantir la fourniture des denrées, la traçabilité, le physique et comptable, le respect des règles d'hygiène et sécurité alimentaire. Et puis, afin de garantir tout ça, une qualité des produits. Aujourd'hui, c'est important de parler de qualité des produits pour nos bénéficiaires. Et c'est pour ça que c'est ce qui anime nos bénévoles et salariés tous les jours de la semaine, avec une seule règle. C'est respecter la personne qui est en situation de précarité. C'est important aujourd'hui.
Alors donc, vous avez parlé de cette historique. Et si maintenant on devait parler de la situation actuelle, qu'est-ce que vous observez, Didier Dussard ?
Alors aujourd'hui si on compare les chiffres depuis 2010, j'ai remonté un peu les chiffres de 2010. En 2010, on avait 4500 bénéficiaires. Aujourd'hui, en 2022, je suis à plus de 11 000 bénéficiaires qui sont répartis dans 70 associations. Ça montre un peu la précarité qui augmente de plus en plus et qui malheureusement, on peut le constater depuis des années, ne faiblit pas. Quoi. On voit pas la marée monte, mais en aucun cas on ne voit la marée refluer. Quoi. Donc c'est inquiétant. Quoi.
Donc vous parlez de 70 associations, pour refaire un point, donc la Banque alimentaire va récupérer donc la nourriture et ensuite va la redistribuer à ces associations qui vont ensuite la redistribuer aux personnes qui en ont besoin.
Le principe des banques alimentaires, c'est d'aller au travers de ramasses, de dons, de produits venant de la communauté européenne, de la collecte nationale de fin novembre, d'aller récolter des denrées afin de les distribuer aux associations qui elles-mêmes vont les distribuer aux bénéficiaires. Ça, c'est notre principe général. En 2022, c'est 1180 tonnes qui ont été récoltées et distribuées à nos associations. Et puis aujourd'hui, quand on parle de distribution et de respect de la personne, on se doit d'appuyer sur un point important qui est la qualité des produits qu'on peut donner et l'équilibre alimentaire. Donc aujourd'hui, pour donner un deuxième chiffre, on a distribué en 2022 plus de 400 tonnes de fruits et légumes.
Est-ce qu'il y a toujours autant de nourriture qui est disponible pour ces personnes, ou c'est aussi difficile de récolter cette nourriture pour ensuite la distribuer à ces personnes?
Alors, je ne vous cache pas que la principale préoccupation aujourd'hui, c'est nos ramasses. Nos ramasses, c'est ce que font tous nos chauffeurs tous les matins qui tournent dans tous les magasins et qui reviennent avec des produits. Et ces produits sont triés et redistribués à nos associations en temps réel, en flux tendu. Aujourd'hui, ces ramasses sont en baisse. Alors, sont en baisse pour diverses raisons. Depuis la Covid, les magasins se sont adaptés à proposer de plus en plus des dates courtes. Quand les dates du jour ne sont pas distribuées, ça arrive à la banque alimentaire. Et aujourd'hui, le principe de la loi Garot, qui avait énoncé qu'il fallait les magasins devaient nous donner des produits à DLC, date limite de consommation, à 3-4 jours, on n'est plus dans ce contexte-là. Pour nous, c'est délicat parce que si on n'a pas les associations en face le jour même pour distribuer, eh ben c'est des produits qu'on va détruire. Donc aujourd'hui, on détruit beaucoup. Donc il nous faut aller chercher de nouveaux produits, d'aller démarcher des grosses plateformes pour avoir des produits de qualité. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Je ne vous dis pas que c'est difficile. Tout à l'heure, quand je vous parlais des fruits et légumes, quand je vous parlais de 400 tonnes, c'est pas assez 400 tonnes. Il nous faudrait beaucoup plus de fruits et légumes pour proposer aux bénéficiaires une alimentation de qualité. Eh ben, c'est lutter contre les maladies, le diabète, l'obésité, enfin les maladies cardiovasculaires. Enfin, c'est lutter contre tout ça. Donc on se doit d'essayer d'apporter ces aliments. Donc c'est un combat de tous les jours. Et je ne vous cache pas ce qui est difficile. Et l'inflation aujourd'hui nous amène aussi à réfléchir sur ces produits. Et comment on peut arriver à trouver des nouvelles sources d'approvisionnement. Le lait, si on prend du lait, on a eu une offre de lait à 83 centimes le litre. On passe 12 palettes de lait par mois. Donc ça amène à trouver des réflexions, à avoir des financements pour combler ces vides, et c'est pas forcément facile tous les jours.
Juste un point justement sur comment vous financez, comment est financée la banque alimentaire de l'Ain.
Alors la banque alimentaire de l'Ain est financée par, je vais diviser le Camembert en quatre parties, une partie par l'État, une partie par le département, une partie par les communes et les communautés de communes. Et puis l'autre partie par ce qu'on appelle une participation de solidarité qu'on demande à nos associations partenaires à hauteur de 10 centimes du kilo et des mécènes aujourd'hui. Voilà.
Et tout ce qui est en termes de l'État, les collectivités, est-ce que le financement est stable ou là aussi il y a des baisses?
Non, il n'y a rien de pérenne. Chaque année, c'est à la chasse aux subventions. Et à chaque fois, il faut justifier, on n'a rien de pérenne. Donc aujourd'hui, on arrive dans des situations qui peuvent être délicates pour la banque alimentaire, puisqu'on a un budget de plus de 600 000 euros. Et ce budget, il faut le tenir. Et on arrive à être en difficulté financière. Mais bon, alors, l'État, le département sont conscients de tout ça et nous aident. Mais voilà, nous, on aimerait bien avoir une situation pérenne. Aujourd'hui, si nous on fait de l'aide alimentaire, c'est pas pour se faire plaisir. C'est toujours ce que je dis. Nous, on est là, on a un rôle quasiment de service public. Donc à nous, c'est pas forcément à nous de se débrouiller pour trouver des subventions. C'est aussi aux collectivités locales de nous aider un peu plus, de prendre conscience de ce que nous, banque alimentaire et association, amenons à tous ces bénéficiaires ou toutes ces personnes en situation de précarité aujourd'hui, quoi.
Alors Nicole Gabriergue, vous êtes la responsable de l'unité locale du bassin burgien de la Croix-Rouge, l'une des associations bénéficiaires de la banque alimentaire de l'Ain. Peut-être une petite présentation.
Pour que vous ayez une idée de l'étendue de notre territoire, c'est 54 communes, dont Bourg. C'est-à-dire que nous partons de la frontière du Jura, les petits villages du Jura, en passant par Corvessia. Nous avons comme commune Neuville-sur-Ain, Pondin, tout ce secteur-là. Nous avons également une équipe qui a été rattachée à notre secteur, Villars-les-Dombes. Et nous allons jusqu'aux portes de Lyon, 54 communes. Nous avons, nous, beaucoup de besoins. La forte augmentation se situe au niveau des jeunes, 15-25 ans, mais encore plus au niveau des 25-64 ans et maintenant beaucoup de retraités. Alors, moi je dis toujours, qu'est-ce qu'on peut faire pour une personne qui a une retraite de 600 euros par mois, quand elle a payé son loyer, elle n'a plus rien. C'est très clair. On a encore reçu un dossier aujourd'hui de quelqu'un qui travaillait dans une entreprise. Il était électricien. L'entreprise a mis la clé sous la porte. Il avait un CDI. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Et nous, on remarque bien, quand on regarde ses ressources actuelles, mais comparées aux charges qu'il avait, on se dit qu'il avait un bon salaire. Maintenant, il ne peut plus payer ses charges. Et ça, c'est vraiment le quotidien. Pour continuer un petit peu dans l'étude de la population que nous accueillons, beaucoup de femmes seules, avec enfants. Des femmes qui perçoivent le RSA. Parce que pour elles, percevoir le RSA, c'est entre guillemets plus confortable que d'aller travailler et de faire garder les enfants. Parce que quand on a 1000 euros par mois, faire garder les enfants, ça coûte cher. Donc, bon, c'est une étude, hein, c'est... Voilà, moi, je n'ai pas de solution par rapport à ça. Donc, on a toutes ces femmes, et il y en a beaucoup, et de plus en plus, des femmes seules avec enfants. Et puis, des couples qui n'arrivent pas à trouver de travail. Il n'y a pas que des gens au RSA, mais il y a des gens qui cherchent du travail et qui n'en ont pas. Alors, moi, je dis toujours, 1000 euros, on ne peut pas vivre. C'est clair, on ne peut pas vivre. Donc nous, nous sommes là pour pallier à ça. Pour vous donner un petit peu une ampleur, une idée de la quantité de marchandises que nous distribuons. En 2021, nous avons distribué 133 tonnes de marchandises. En 2022, nous sommes à 135. Tous les ans, ça augmente. Alors, 133 tonnes de marchandises, si on fait un ratio, ça représente 266 000 repas servis. Et si on fait le ratio pour 2022, c'est 270 000 repas servis. Donc ça veut bien dire qu'il y a un manque quelque part. Moi j'ai regardé et j'ai comparé le mois de janvier de cette année par rapport à 2022. Nous sommes déjà à 8% d'augmentation de bénéficiaires, que pour le mois de janvier. Je ne parle pas de mois de février puisque nous étions en travaux et nous étions donc fermés. Donc je ne peux pas aller au-delà. Mais déjà rien que sur un mois, 8%, moi je trouve que c'est beaucoup.
Qu'est-ce que vous remarquez ces derniers mois ?
Pour nous, déjà, je voudrais quand même resituer un petit peu. La dignité de la personne, c'est de dire que rien n'est gratuit. Donc nous demandons également une participation de solidarité aux bénéficiaires qui est de 2 euros par adulte et 1 euro par enfant jusqu'à 15 ans. On ne vient pas faire l'aumône, mais on vient chercher à manger pour pouvoir se nourrir et subvenir aux besoins de sa famille. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Donc, moi, ce que je peux remarquer, c'est que, bon, il y a beaucoup d'agressivité chez les personnes. Pas toutes, hein, évidemment, mais l'agressivité, je ne suis pas la seule à le dire. Il y a une certaine agressivité qui augmente parce que les gens n'ont plus rien. Ils ne savent plus vers qui se tourner. Ils viennent vers nous, on est là pour les écouter, mais il est vrai que quand on distribue en 3h30 de l'alimentation à une centaine de familles, alors les bénévoles font ce qu'elles peuvent, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit on pourrait faire plus, parce que là c'est pas possible. Ce sont vraiment, et nous on le remarque surtout quand on les accueille pour les inscriptions, on voit de plus en plus de familles, et surtout des femmes, mais j'ai vu aussi un homme une fois, en larmes dans les bureaux. Parce que ne pas pouvoir nourrir sa famille, c'est difficile. Et ça, c'est récurrent. Ça devient de plus en plus important. Et puis, au fur et à mesure, nous, on voit bien au fur et à mesure qu'ils viennent chez nous, ils changent. Quand on les aide pendant 3 mois, il y a quand même une autre attitude. Il y a des personnes qu'on revoit sourire, qui ne souriaient pas au départ. Parce que certains ont honte de venir. Pourquoi je viens ici alors que je pourrais vivre normalement de mon travail ? Je ne peux pas vivre de mon travail aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un constat, je trouve, qui est difficile parce que c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment il y a 10 ans de ça. Ça fait 12 ans que je suis présidente, donc j'ai vu une évolution. Il y a 6 ans de ça, on distribuait 70 tonnes. On est au double maintenant. Ça ne devrait pas. On devrait diminuer. Or, ça ne fait qu'augmenter d'année en année. Alors, si vous voulez connaître comment on fonctionne, comment on vit à l'unité locale, Alors des subventions, nous n'en avons que très peu. Ça ne représente même pas 10% de notre budget. Nous vivons avec par le travail des bénévoles. Donc nous avons une équipe de secouristes qui fait des postes de secours. C'est une rentrée d'argent. Nous pouvons faire des formations PSC1 grand public. C'est aussi une rentrée d'argent. Il y a la participation des bénéficiaires. C'est aussi une rentrée d'argent. Ça ne suffit pas à payer notre participation à la banque alimentaire. Mais c'est quand même un petit revenu. Et puis d'autres actions qu'on peut mener, comme la quête nationale, comme etc. On essaye toujours de trouver des solutions. Et c'est ce qui nous permet d'aider les gens.
Le bénévole aujourd'hui, c'est le centre du process. S'il n'y a pas de bénévole aujourd'hui, tout notre système va s'écrouler. Et les pouvoirs publics, ils vont se retrouver devant une marée, devant une révolution. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de révolution alimentaire ? Peut-être que si on n'est pas plus écoutés que ça, si les bénévoles sont pas écoutés à la hauteur du travail qu'elles peuvent amener à la société aujourd'hui, eh ben on va aller à la révolution. On va y aller.
J'ai pour habitude de calculer le nombre d'heures de bénévoles.
Et combien de bénévoles au bassin?
Alors ici, on a 72 bénévoles, mais nous sommes une bonne vingtaine attachés à l'aide alimentaire, voire un petit peu plus. Bon, je vais dire une vingtaine, 25 si vous voulez.
Et Didier Dussard, juste entre parenthèses, combien de bénévoles à la Banque alimentaire de l'Ain?
On a 100 bénévoles qui sont là tous les jours, du lundi au vendredi matin. Voilà.
Et donc, je fais le ratio heures de bénévolat multiplié par le taux horaire du SMIC. S'il fallait que l'État prenne en charge, il serait obligé, ne serait-ce que pour nous, et je suis loin de tout comptabiliser parce que moi, les heures que je fais, je ne les compte pas toutes. Il faudrait minimum 220 000 euros pour faire tourner une aide alimentaire comme la nôtre. Minimum. Donc, Didier a raison de le dire, nous, on alerte, mais si les assos disparaissent, qui va faire ce qu'on fait en ce moment?
Et ça, ce que vous nous dites aujourd'hui, est-ce que ça remonte jusqu'à l'État? Donc, est-ce qu'on peut dire que vous ne sentez pas entendu?
C'est qu'on ne prend pas la mesure de la situation actuelle. On n'en prend pas la mesure. Tout à l'heure, quand je vous parlais de la précarité qui augmente depuis 2008, on voit bien, on dit toujours, oui, mais ça va s'arranger. Aujourd'hui, la courbe, tout à l'heure, je vous parlais de marée lente, c'est une marée. Ça monte. Aujourd'hui, nous, en 2020, on était à 7700 bénéficiaires. En une année, avec la Covid, on est passé à 11 000 bénéficiaires. Cette année, on stagne un peu parce qu'on a perdu quelques associations. Mais 11 000 bénéficiaires, plus de 3,6% d'augmentation de denrées distribuées aux associations. Enfin, c'est des choses qui doivent parler. Tout à l'heure, quand on parlait de budget, si on faisait le ratio avec ce qu'amènent les bénévoles, nous, on amène à l'État plus de 6 millions d'euros quoi, par an. 6 millions d'euros. Et à côté de ça, on nous donne des subventions, même pas à la hauteur du travail qu'on peut amener. Donc, vous voyez, il y a comme un décalage. Alors, je connais pas la solution, mais aujourd'hui, nous n'oublions pas le travail que peut faire le bénévole. Est-ce qu'on amène aujourd'hui, c'est formidable de nous dire, c'est formidable le travail que vous faites. Oui, ok, ça nous fait plaisir, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Aujourd'hui, de passer notre temps à essayer de trouver des subventions, à trouver de l'argent, ça ne devrait plus arriver. On devrait nous aider. Aujourd'hui, si vous êtes à la banque alimentaire, le loyer de la banque alimentaire, c'est plus de 160 000 euros par an. Et nous, on doit payer 1 000. Alors, certes, on a des subventions pour ça. Mais aujourd'hui, voilà. Et il faut se battre pour aller chercher de l'argent tous les ans. On fait que ça. Pour vous donner un ordre d'idée, on fait 400 demandes de subvention. On a un bénévole qui est chargé de ça. Il fait 400 demandes de subvention auprès des communes. Est-ce que vous savez combien de communes nous répondent? 33 communes nous ont répondu. 33 communes nous ont répondu. Donc voilà. Donc c'est plein de trucs comme ça. Et aujourd'hui, l'aide alimentaire, c'est plus une petite association du coin, le petit club de boules, comme on peut dire, où j'ai envie de venir ou pas envie de venir. Il faut des bénévoles. Il faut que les bénévoles s'engagent. Il faut qu'ils s'engagent. Et c'est du combat de tous les jours. Et ça, il faut l'intégrer aujourd'hui. On n'a pas l'impression qu'on l'intègre, ça.
Pour terminer, un dernier mot chacun. Didier Dussard.
On n'a pas eu un discours optimiste. Moi, l'optimisme que je peux mettre là-dedans, c'est que heureusement qu'on a des bénévoles qui se lèvent tous les matins. Certains chez nous se lèvent à 5 heures du matin pour aller aider l'autre. Et donc, c'est leur rendre hommage. Je veux rendre hommage à tous mes bénévoles qui tous les matins sont là pour avec la même cause, c'est aider l'autre à se restaurer. C'est ce qui les anime tous, quoi. Voilà.
Moi, je dirais la même chose que Didier. Hein. On ne peut que remercier, et c'est ce que je fais chaque fois d'ailleurs, remercier les bénévoles d'être présents, de faire le travail qui n'est pas toujours facile et d'être toujours là. Et d'accompagner les personnes, parce que certains le prennent encore plus à cœur que d'autres. Mais chacun le fait à sa manière, selon ce qu'il est lui, selon ses difficultés personnelles, parce qu'il y a des bénévoles qui en ont aussi. Et tout ça, ça fait une belle équipe. Et faut que ça continue. Mais on aimerait un peu plus d'aide quand même.
Bien sûr, vous cherchez toujours de nouveaux bénévoles. Mmh. Donc, si des personnes sont intéressées pour rejoindre la Banque alimentaire de l'Ain ou alors la Croix-Rouge, elles peuvent vous contacter directement.
Sans problème. Au 1, avenue des Belges.
Didier Dussard, Nicole Gabriard, merci. Didier Dussard, donc président de la Banque alimentaire de l'Ain. Nicole Gabriard, donc présidente de l'unité locale du bassin burgien de la Croix-Rouge.
Radio B. Radio B.
Et maintenant, pour mieux comprendre le fonctionnement de la Banque alimentaire, son président Didier Dussard nous fait visiter les coulisses de l'entrepôt.
Donc, qui sont les salariés dans cette équipe ?
Alors, les salariés, notre comptable, là, notre diététicienne qui est salariée, mais qui est en atelier aujourd'hui. Là, vous avez tout ce qui est pôle, transport, préparation de commandes, prospection, collecte, gestion de la collecte. Là, vous avez tout le bureau de gestion de gestion des appros avec Grégory qui est salarié, qui est responsable de l'entrepôt du SEC. Les salariés, ils sont là pour assurer la continuité tout au long de la semaine, hein, puisqu'on est ouvert tous les jours de la semaine du lundi au vendredi, mais uniquement les matins, quoi. Donc là, vous avez l'entrepôt du SEC, donc un entrepôt qui est géré comme n'importe quelle entreprise qui fait de la logistique. Ça veut dire que toutes les palettes sont entreposées, sont stockées, sont répertoriées, sont classées, comme dans n'importe quel entrepôt, un entrepôt qui fait de la logistique, c'est pareil. Tous les produits de l'Europe sont classés d'un côté et tous les produits de la collecte ou de la ramasse sont classés d'un autre côté. On distribue à peu près 12 palettes de lait par mois. On essaye de respecter au mieux ce qu'on appelle le camembert nutritionnel. Ça veut dire qu'on définit des quantités par bénéficiaire, avec autant de litres de lait, autant de litres d'huile, autant de paquets de pâtes, etc. par personne. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut être à 6 litres de lait par mois, 1 litre d'huile par mois, 1 kilo de sucre par mois.
C'est le nutritionniste qui vous aide aussi.
Tout à fait. Voilà, c'est le rôle de notre diététique de nous dire, on ne donne pas assez, vous donnez trop, il faudrait pousser un peu plus là-dessus. Voilà. Notre camembert nutritionnel, c'est quelque chose qui est important. Et derrière vous, vous avez les commandes que nos bénévoles préparent pour nos associations, en sachant que les bénévoles, les associations nous envoient un bon de commande de produits qu'elles désirent. Et nous, par rapport à ce que peuvent nous donner en chiffres, nombre de foyers, nombre de personnes, etc., on rentre tout ça dans une moulinette et ça nous donne les quantités qu'on doit leur donner, quoi. Alors tout à l'heure, je vous parlais d'inclusion, de lien intergénérationnel. La Banque alimentaire, on essaie de créer du lien intergénérationnel. On inclut aussi des personnes en situation de handicap. On a des partenaires avec des IME qui viennent plusieurs fois dans la semaine.
Si je peux avoir ton prénom ?
Matelas Rousé.
Et donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?
Je travaille avec mon éduc. On travaille, on amène les gâteaux, trucs comme ça. Et voilà.
Donc là, tu prends des palettes, c'est ça ?
Je prends les palettes, je les emmène, je les ramène, je les ramène.
Tu transportes les marchandises ?
Ouais, c'est ça.
Ça te plaît ?
Ouais, j'adore ça. C'est super bien.
Donc voilà, là vous avez les préparations de commandes. Avec une bénévole qui est une des plus anciennes de la Banque alimentaire. Hein.
Je peux vous demander votre prénom ?
Colette Laurencin.
Ça fait depuis combien de temps que vous travaillez pour la Banque alimentaire ?
Ça fait 11 ans.
Pourquoi vous êtes impliquée ? en tant que bénévole
Disons qu'en étant à la retraite, je travaillais avant Musée Cariat, donc je passais tous les jours devant. Donc je me suis dit après, je ferai ça pour la retraite, pour aider les personnes.
Et quelles sont vos missions en tant que bénévole?
Mission, apporter du bien aux jeunes, à manger, tout ça, à manger, à boire, et voilà.
Et vous faites quoi aujourd'hui, précisément?
Là, je prépare donc les préparations de commandes, des produits secs ou produits secs.
Vous savez quelle association a demandé cette préparation?
Là, c'est l'association Bray Solidarité, Ponsin.
Là, maintenant, on va aller dans la partie frais.
Donc la partie sec, pour résumer, c'est à la fois tous les aliments qui peuvent se conserver dans les placards et les produits d'entretien, les choses.
Tout à fait. Et les produits d'hygiène aussi, parce qu'on fait aussi des produits d'hygiène. Quand on parle aujourd'hui d'aide alimentaire, il ne faut pas exclure tout ce qui est produits d'hygiène qui sont importants aujourd'hui. Là, aujourd'hui, le déroulement, c'est qu'on a des bénévoles chauffeurs qui partent le matin avec des camions réfrigérés, qui font la tournée des magasins et qui ramènent les denrées à la banque alimentaire. De là, ces produits sont triés. Produits frais, produits secs. Et puis après, c'est classé et c'est redistribué aux associations. Donc tout ça doit être tempéré. C'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas si vous le constatez, ici, il fait meilleur que dans l'entrepôt du sec. Parce que tout ça, ici, c'est géré en température. Si vous venez l'été, là-bas, il fait chaud. Là-bas, la température est constante ici. Ici, vous avez toute la partie tri des produits carnés. Tout est trié par date. Là, toute la partie fruits et légumes, où là, tous les bénévoles, tous les matins, tri. Et aujourd'hui, on jette à peu près plus de 2 tonnes de produits par mois. Pour vous dire un peu comment on peut être considéré par certains donateurs. Quoi.
Qui sont les donateurs?
Alors, on peut avoir tous les magasins. On a beaucoup de magasins, une quarantaine de magasins sur le département. Mais on a aussi des gros donateurs où on peut avoir des produits qu'on est capable d'avoir en grosse quantité, comme des bananes, comme du lait, comme des yaourts ou des choses comme ça.
Oui, bonjour. Comment vous appelez?
Jean-Pierre.
Ça fait depuis combien de temps que vous êtes bénévole ici?
14 ans.
Alors pourquoi vous avez décidé de devenir bénévole à la Banque Alimentaire?
Parce que quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit je ferai un jour de bénévolat dans l'humanitaire. Et donc c'est le mardi. Voilà.
Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
On trie les légumes, moi. Moi je fais que ça, trier les légumes. Voilà.
On a plusieurs chambres. On a 2 chambres froides positives, une chambre froide négative. Alors positive, c'est un réfrigérateur. Et négatif, c'est un congélateur. Là, c'est le bureau où tous les produits sont tracés. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort, c'est tracé. Alors, ça nous permet aussi de gérer tout ce qui est alerte alimentaire, si on venait à avoir des alertes alimentaires. Parce que ce qu'il faut bien intégrer, c'est que tous les produits qui arrivent à la banque alimentaire, si on a un souci avec ces banques alimentaires, on n'ira pas se retourner contre le donateur. À partir du moment où nous, on a accepté ces produits nous appartiennent. Donc on se doit de vigilant tout ça. C'est pour ça que le tri, le respecter la personne, c'est quelque chose qui nous anime, quoi.
Si vous voulez devenir bénévole de la Banque Alimentaire, c'est possible. Vous pouvez les contacter sur leur site ba01.banquealimentaire.org. La Banque Alimentaire récupère donc des produits alimentaires et d'hygiène, les stocke et prépare des commandes pour les associations d'aide à la personne. La Croix-Rouge en fait partie. Tous les mardis après-midi, dans les locaux de la Croix-Rouge, des dizaines de personnes attendent patiemment leur tour pour venir chercher des produits. Des bénévoles sont là pour les accueillir, comme Pascal, un jeune retraité. Il est installé sur une petite table à l'extérieur et il accueille les bénéficiaires.
Voilà, donc les gens viennent, ils présentent leur carte. Même s'ils ont des moyens très limités, en fonction de leur dossier fourni par l'assistante sociale, on décide de leur demander une petite participation financière qui varie, vous voyez, selon les gens. Et puis ensuite, moi je suis là pour les accueillir, préparer les papiers et faciliter ensuite la distribution. Donc là, vous voulez du riz? Des pâtes,
de la viande, c'est la dame qui fait du la mamie, steak et tout.
Ni ravioli alors.
Ni ravioli alors.
Et poisson?
Oui, s'il vous plaît.
Voilà.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Ça fait depuis combien de temps que vous êtes bénévole?
Depuis le mois d'octobre. Voilà, je suis jeune retraité et donc ancien enseignant et voilà, je me À la Croix-Rouge, je m'occupe à la fois de l'aide alimentaire, mais aussi je donne des cours de français langue étrangère. Et puis je fais parfois les maraudes.
Et c'est un poste que vous faites souvent, ça, vous aimez bien
ou... Ouais, le matin, je vais à la banque alimentaire, je récupère les marchandises. Et puis ensuite, l'après-midi, je tiens ce poste. Et puis ensuite, je renouvelle sur l'ordinateur, je mets à jour, puisque ensuite apparaissent le début de leurs droits et la fin de leurs droits. Et tous ceux qui sont marqués en jaune, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils repassent par l'assistante sociale pour vérifier s'ils ont leurs droits peuvent être renouvelés ou pas, en fonction de leurs ressources. Et puis, sachant que dans l'année, ils peuvent bénéficier d'une aide uniquement 6 mois dans l'année, quoi. Ensuite, le but, c'est quand même, même si parfois ça peut être dur, de les amener à trouver une solution pérenne pour eux, vers plus d'autonomie et... Voilà.
Environ 100 personnes viennent tous les mardis après-midi et des bénéficiaires ont bien voulu partager leur situation.
Je suis avec mes enfants et mon conjoint qui est en situation de handicap.
Et vous venez depuis longtemps à la Croix-Rouge ?
Ça va faire la troisième fois là, ça va faire 3 semaines du coup.
Vous êtes nouvelle arrivante ici, est-ce que c'est parce que les prix augmentent ? Est-ce que vous sentez que le pouvoir d'achat c'est difficile ?
Parce que les prix augmentent et j'ai perdu mon emploi.
Et donc toutes vos courses sont faites ici ?
Oui.
Donc quelle est votre situation ?
J'étais grosse facture en fait. J'ai pas d'aide, j'ai rien en fait. Et je peux pas m'en sortir en fait, c'est pour ça.
Vous venez depuis combien de temps à la Croix-Rouge ?
3 mois. Là ils m'ont renouvelé 3 mois là. On a le droit à 6 mois dans l'année.
Ça vous a soulagé d'être renouvelé ?
Ah oui, franchement, ouais. Et vu que je me suis fait opérer du dos et j'ai une facture de 300 euros à payer, pour ça je suis revenue.
Et donc en quoi cette aide, elle est indispensable pour vous dans votre budget ?
La nourriture. Parce que moi je n'ai pas d'APL, j'ai rien. J'ai 700 euros de loyer. J'ai pas d'aide, j'ai rien.
Et vous sentez aussi que les prix ont augmenté ?
À fond. Ah mais il y a tout qu'à augmenter. Même le DEF, je payais 40 euros. Maintenant je me retrouve à 120 euros. Et toute seule, je ne peux plus. À toucher 900 euros pour payer toutes les factures. Après, il n'y a plus rien. C'est pour ça.
Et ça vous permet de tenir une semaine à peu près, ce qu'il y a ici ?
Oui, franchement, oui. Oui, parce qu'ils donnent bien, franchement. Il n'y a rien à dire. On est bien servi et tout. Ouais.
Une fois que les bénéficiaires ont montré leur carte, les bénévoles cochent sur un papier les produits européens tracés dont ils ont besoin. Ils vont à l'intérieur des locaux et dans une première salle, plusieurs frigos conservent les produits frais. Et il y a aussi des produits d'hygiène sur les étagères.
Je donne tout ce qui est frais, c'est-à-dire la viande, les yaourts, le fromage et ça, les produits d'hygiène, en principe, sauf les couches pour bébé, mais le reste, on le donne. Voilà, ça, on le donne. Par contre, tout ce qui est couche, shampoing, c'est vendu. Mais par exemple, le paquet de couches, c'est 3 euros. C'est pas cher, quoi. Et puis voilà. Voilà, c'est ce que je fais.
Et donc là, il y a un petit papier qui
Alors,
est donné.
Ça, c'est le papier qui représente la famille, c'est-à-dire le nom, le nombre de personnes. Là, on marque tout ce qui est marqué là-dessus. En principe, ce sont des produits européens. Donc ça veut dire qu'il faut y enregistrer, c'est contrôlé. Donc si elle veut par exemple des haricots verts, deux boîtes, une boîte, je note. Et puis après en fin de semaine, ils font l'inventaire. Alors les produits, le riz, les pâtes, ça ce sont des tomates pelées, les raviolis, le velouté de poireau, le lait, les haricots verts, le poisson, c'est tout européen. Ça, poulet au curry et poulet au piment.
Ça passe encore la dernière fois, mais ça, super, magnifique.
Vous en voulez de ça ? Oui. Mais pas celui-là.
Ça, je sais pas, je n'ai pas
C'est essayé. Au piment.
Pardon. Je vais essayer. Mais ça, c'est super.
Dans voilà. Une dernière salle, d'autres étagères avec des aliments en boîte, mais aussi des étals avec des fruits et des légumes.
Et ben voilà, je vais passer à côté.
C'est gentil.
Là, je fais du bénévolat, j'entame ma 3e année. Et donc, mon stand, c'est de donner les produits secs, éventuellement aussi les boîtes de conserve. Malheureusement, je n'en ai pas pour l'instant. Et sinon, voilà.
Pourquoi vous êtes devenue bénévole ?
Je suis devenue bénévole parce que c'était dans le sens d'aider un petit peu les gens et puis de me sentir utile, vu que pour l'instant, je ne travaille pas. Et voilà, donc je me sens plus utile et donner un coup de main, voilà, c'est tout.
Et vous venez combien de fois par semaine ?
Ben, je viens le mardi toute la journée et le jeudi matin. J'adore faire ça.
Et vous sentez qu'il y a plus de gens qui viennent, vu que vous êtes là depuis 3 ans ?
Oui. On en voit un peu de tout, et puis de toute origine, de toute... voilà. Des gens qui sont vraiment dans le besoin.
Je m'appelle Luisa.
Vous êtes là depuis combien de temps en tant que bénévole ?
Ça fait, plus de 2 ans quand même. Hein. Presque 3 ans. Et puis, je suis dans les légumes, et c'est un truc qui m'intéresse très, très, très bien. Et je penserai continuer jusqu'à ma mort. Rendre service aux gens, à ceux qui en ont besoin de nous. On est là pour eux. Et puis, on est là pour rendre service à tout le monde.
Si vous voulez être bénévole à la Croix-Rouge, ils ont toujours besoin de nouvelles personnes. Vous pouvez les contacter sur leur site internet www.1.croix-rouge.fr.
À vous, les Burgiens, sur Radio B 90 FM.
Et avant de terminer ce magazine, votre actualité locale en bref.
Bourque, en bref.
La Dombe toujours en alerte sécheresse. La préfecture annonce que toute la Dombe est en alerte sécheresse renforcée. Le département a un déficit de précipitations de 10 à 20%, notamment dû à un été très sec en 2022. Les habitants doivent alors limiter leur consommation d'eau. Jeudi 30 mars, c'était le 4e forum économique du département de l'Ain. Pour l'occasion, Jean de Guéry, le président du département, a invité Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre entre 2002 et 2005, sous la présidence de Jacques Chirac. On écoute la réaction de Jean-Pierre Raffarin à l'issue de ce forum.
Je suis très impressionné par cette solidarité territoriale qui est à la fois culturellement forte, mais ce que j'ai trouvé, c'est qu'elle c'est pas une identité close, c'est une identité ouverte, dynamique, à la fois sur l'extérieur, mais aussi sur le futur. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très humain. Dans une société qui est de plus en plus technologique, où quelquefois on a l'impression que les décisions sont loin des personnes, ça fait quand même du bien de voir les entrepreneurs, les agriculteurs, les artisans, les élus, tout le monde travailler à un projet commun pour son département. C'est impressionnant et je vais vous dire, ça donne le moral.
Monsieur de Guéry, qu'est-ce que vous attendiez de ces rencontres, de ce forum économique ?
Ben vous savez, c'est le 4e forum que nous organisons au département de l'Ain. C'est surtout des rencontres avec nos entreprises, nos chefs d'entreprise, nos artisans, pour échanger avec eux et essayer de parler le même langage et surtout de leur apporter des dispositifs pour les aider encore à produire davantage, pour prendre le maximum de marché aussi. Et donc, ces échanges qui ont été faits, parce qu'il y a eu des ateliers avant que nous arrivions, nourrissent bien évidemment, leur apportent des conseils et derrière, ben, ils sont plus performants. Et c'est gagnant-gagnant pour eux comme pour nous.
Et pourquoi vous avez convié Monsieur Raffarin ?
J'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Pierre Raffarin parce que ce qu'il a fait en tant qu'homme politique et surtout en tant que Premier ministre de la France, et véritablement c'est un exemple pour nous élus de ce qu'il a fait, un exemple de courage politique. Et ça c'est important parce que cela a été dit tout à l'heure, si on n'a pas de courage lorsqu'on mène une entreprise ou une collectivité, eh bien on n'arrive pas à faire grand-chose. Et derrière, il faut aussi savoir braver, vous l'avez dit Monsieur le Premier ministre, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et voilà, donc il ne faut pas avoir peur d'avoir de l'engagement et surtout de l'audace.
Et Monsieur Raffarin, donc vous avez dit pour être un bon leader, il faut aussi avoir une unité, avoir un groupe qui suit derrière. En France, la situation est compliquée en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la réforme des retraites par le gouvernement ?
Je pense d'abord que on a vécu une période extraordinairement difficile. Le gouvernement avait un projet de réforme à point, qui était un premier projet de réforme. Et puis le Covid est arrivé, ça a bousculé le tout. Et puis on est reparti sur un autre projet. Il n'y a pas eu la dynamique de concertation qu'on aurait pu avoir en période normale. Moi, j'ai fait une réforme avec Jacques Chirac en 2003, où on avait pu, dès le début du quinquennat, avoir une négociation sur l'agenda social de l'ensemble du quinquennat, ce qui avait donné la possibilité que la CFDT participe à la réforme. Donc là, on a été bouleversé par pas mal de conditions. Et donc, ce que j'espère, c'est que le pays va progressivement s'apaiser, que chacun va être respecté et qu'on trouvera des solutions à un certain nombre de problèmes. Parce qu'il y a le problème des retraites. Moi, je crois qu'il faut cette réforme de retraite. Mais derrière ce problème de retraite, il y a beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup d'insatisfaction. Il ne faut pas cacher tout par l'affaire des retraites. L'affaire des retraites est un sujet, mais les inégalités salariales, la condition des femmes au travail, il y a un certain nombre de métiers qui sont des métiers aujourd'hui pour lesquels les salaires sont trop bas par rapport à l'importance qu'ils ont dans la société. Il y a un certain nombre de sujets qu'il faut essayer d'évoquer. Et ça, ça fait partie de ce qui est la priorité d'un pays, c'est la cohésion sociale. Aujourd'hui, on a vu un département qui travaille la cohésion départementale. Eh bien, ne serait-ce que, vous voyez, comme dit le président, il y a des choses qu'on connaît les uns les autres, mais le fait de les voir ensemble, de les discuter ensemble, d'avoir une sorte de patrimoine ensemble pour regarder l'avenir, c'est quelque chose qui construit une cohésion. Et aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de cohésion nationale. Et ça, je crois que c'est dangereux parce qu'il ne faut pas opposer les Français les uns aux autres. Il faut les rassembler. Et aujourd'hui, on est dans une logique de la société. Et beaucoup de gens ont leur part, d'ailleurs, notamment d'abord les députés, qui montrent que le conflit est la recette pour beaucoup de gens. Et c'est l'accord, c'est le lien qui compte. Et ce n'est pas le conflit. Derrière la violence, il n'y a rien qui porte. En revanche, il y a dans ces revendications des sujets qui sont des sujets qui n'apparaissent pas au premier plan, mais qui sont très importants et qu'il faut traiter. Et là, je crois qu'il faut avoir une vision importante de faire peut-être un nouveau plan de cohésion sociale pour travailler ces questions-là. Un pays doit être rassemblé, il faut travailler le rassemblement. Ça va être dur, mais il faut le faire.
Jean-Pierre Raffarin a aussi annoncé qu'il allait accompagner Emmanuel Macron en Chine du 5 au 8 avril. Une visite avec la présidente de la Commission européenne et parmi les sujets abordés, la guerre en Ukraine, mais aussi les droits de l'homme en Chine. Jean-Pierre Raffarin a été nommé en 2018 représentant spécial du ministère des Affaires étrangères en Chine. Le pizzaiolo du restaurant Puccinella, champion du monde de la pizza napolitaine. La compétition était à Las Vegas jeudi 30 mars, un nouveau titre pour Johan Mormil, le patron de la Puccinella, sa pizzeria située au centre de Bourg-en-Bresse. Nous étions allés le rencontrer après son titre de champion de France en 2021. On écoute un extrait du reportage dans ses cuisines.
L'art de la pizza napolitaine, c'est ni plus ni moins le respect des traditions de faire la pizza comme on la faisait depuis 300-400 ans. Pour respecter les traditions, il y a un disciplinaire qui est en place, reconnu par le patrimoine UNESCO depuis 2017, qu'on appelle le disciplinaire STG. Donc ça veut dire spécialité traditionnelle garantie. C'est vraiment de la préparation de l'empattement, à l'étalage, à la garniture des produits qu'on met dessus, à la cuisson. Voilà, tout ça est reconnu patrimoine UNESCO. Donc dans ce disciplinaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc STG, on a le choix, il y a possibilité de faire 4 pizzas. Ça s'appelle le menu de Piaget. Donc si vous voulez, chez Puccinella, voilà, vous ouvrez le menu, j'ai vraiment les pizzas STG. Donc c'est les 4, c'est la marinara, la margarita, la tricolore, la bufala.
Dans ces 4 pizzas qu'on peut dire au patrimoine
STG, ouais, patrimoine
STG,
UNESCO, ouais.
Patrimoine de l'UNESCO. Donc vous mettez quoi comme ingrédients, d'où ils viennent?
Par exemple, on a ce qu'on appelle la fiordilatée. Donc la fiordilatée, deux catégories, la séchée, la fraîche. Ça veut dire que c'est de la mozzarella au lait de vache, fiordilatée. Ensuite, on a la même bufala. Vous savez, il y a un peu plus, vous savez, il y a une espèce de croûte dessus. Ensuite, j'ai tomate cerise fraîche. J'ai ce qu'on appelle la samarsano, qui est juste là. Donc là, voilà, c'est ni plus ni moins que des tomates fraîches pelées, haut de gamme, qu'on prépare en sauce. Donc les ancêtres le faisaient à la main. Nous, on le fait au passe tomate. Si vous voulez, ce qui va gentiment faire la sauce sans l'éclater et maintenir les fibres. C'est ce qui est très important, de maintenir les fibres de la tomate pour en conserver le goût. Basilic frais. Notre ami Parmigiano Reggiano sous toutes ses formes. Donc on l'a là en ce qu'on appelle râpé, enfin en grain, et en copeaux de parmesan. Copeaux, c'est un peu des pétales, un peu. C'est parmesan sous forme de pétales. Et Origan classique séché et notre fameuse huile d'olive extra vierge. Et voilà pour la pizza STG.
Ça vient d'Italie plutôt, les ingrédients.
À 90%, oui. 90%, oui. Non, mais tomates cerises sont fraîches, sont françaises, mes légumes sont français. Mais à 90%, les produits viennent d'Italie, oui, et du sud de l'Italie.
La pizza qui a gagné donc le premier prix.
C'était la marinara. Je vous fais voir sur le menu, je vous l'ai descriptif. Donc, tomate samarsano, origan, ail frais coupé minute, basilic, et bien sûr, l'indémodable huile d'olive, vierge, sans fromage. Assez risqué, comme pari, misé sur la qualité des produits, toujours pareil, avec un juste dosage, un équilibre qui fait que niveau goût, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment ça qui a été jugé, c'est le goût de la pizza, avec le respect des règles, ce qui est primordial. Et ce qu'on recherche, c'est ça. C'est l'équilibre parfait avec des produits simples. Et c'est ni plus ni moins que ça, la pizza napolitaine. C'est vraiment un équilibre.
Le FBBP et l'UNICEF organisent une rencontre de foot entre célébrités. Robert Pires, Christian Carambeu, champion du monde de foot, l'humoriste Paul Mirabel, mais aussi des locaux comme la vice-championne olympique Chloé Jacquet. Ils vont tous s'affronter dans un match de foot caritatif au stade Marcel Verchères. C'est le lundi 10 avril à 15h. Les places sont ouvertes pour le grand public sur le site du club de foot burgien, le FBBP. L'argent ira à l'UNICEF et les places restent abordables avec des tarifs à 18 euros maximum. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le lundi 24 avril à 18h. Le magazine prend quelques jours de vacances. Belle semaine sur nos ondes et restez à l'écoute du 90FM.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.